terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ikuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Je reçois Monsieur Maxime Charles. Maxime Charles est un employé à la ville de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et à ses côtés, Monsieur Foniemi, qui est le directeur général du CRAR. Et je vous l'ai dit en début d'émission, nous allons parler d'harcèlement, nous allons parler de discrimination à la ville de Montréal dans son ensemble, mais plus particulièrement dans ce cas-ci à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Monsieur Maxime Charles, opérateur dans un aréna, et je vais prendre le temps de vous donner les faits, et lui-même va rentrer après dans les détails. 2019, il fait l'objet de violences et de harcèlement, de vandalisme, dans le cadre de son travail. En avril 2019, il est transféré au département des parcs dans la division horticulture. Il y vit ensuite deux crevaisons de pneus. Une vers la mi-mai 2019 et l'autre vers juin 2019. Un matin, il arrive au travail et il voit que des images obscènes, on va utiliser ce terme, ont été dessinées un peu partout à son égard. Donc 2021-2022, toujours vandalisme et même du vol. Alors il porte plainte à son contremaître et finalement rien ne se passe. On retire même son nom du casier, son cadenas sont vandalisés, ainsi de suite. Situation qu'il dénonce, rien ne se passe. Il dépose donc une plainte à la division respect de la personne à la ville-centre, je dis bien ville-centre, et attend le suivi. Il soumet une version révisée de sa plainte étant donné les éléments du formulaire de plainte de division qui sont, paraît-il, qui sont vagues et qui portent à confusion. Ce qui entraîne quelque part une situation psychologique, vous devez le comprendre, difficile. Il rentre donc dans un état de maladie, il se retire un peu. Il y a deux plaintes qui sont déposées en 2019. En 2019, la police clôt la première plainte en estimant que l'enregistrement de l'incident sur vidéo tendait à démontrer que M. Maxime Charles n'avait pas aussi peur qu'il le prétendait parce que selon eux, lorsqu'il leur parlait, il avait un sourire sur le visage. Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire, je vais le répéter. La police clôt le dossier parce qu'elle estime qu'en regardant la vidéo de l'enregistrement où il expliquait sa situation, on estimait qu'il n'avait pas assez peur parce qu'il avait un sourire sur le visage. Donc, on clôt le dossier. En 2023, il y a une nouvelle plainte qui est déposée. Deux mois plus tard, elle est déposée en avril et au mois de juin, donc le CRA a envoyé une lettre au commandant du poste de quartier 49 pour demander un suivi. Monsieur Maxime Charles est devant moi. Je le remercie énormément d'avoir accepté de nous parler ici à Néo-Québec parce que ça n'est pas une situation facile. Monsieur Maxime Charles, comment allez-vous?
Je vais bien, et vous?
Ben, moi, je vais bien.
Merci de me recevoir.
Oui. C'est moi vraiment qui vous remercie parce que là, je suis allé très rapidement dans ces différentes étapes-là et je souhaitais entendre de vous cette histoire-là, ce qui vous arrive à Rivière-des-Prairies, vandalisme, vol, insulte. Est-ce que vous pouvez partager avec nous cette histoire avec vos propres mots?
Ben, tout a commencé quand je suis arrivé aux arénas. Et lorsque je suis arrivé aux arénas, c'était en 2018. J'ai commencé à l'entretien. Et pour moi, entrer à l'aréna, c'était comme un nouveau monde. Mmh. Et je savais qu'il y avait des oui-dire aussi, que c'était une atmosphère très toxique et tout. Mais à la base, j'aimais ça. Et bon, j'ai commencé à l'entretien pour faire comprendre aussi aux auditeurs, c'est que quand tu commences à l'entretien, tu as possibilité de monter en fonction supérieure. Donc, opérateur. Et moi, vu que j'étais dans la bâtisse, c'était une chose qui m'intéressait. Donc, j'ai été chercher mes formations. Et pour faire comprendre aussi que c'est pas un examen qui est très facile, qui est même le plus difficile de la ville de Montréal, parce que c'est une machine de précision. Et au-delà que j'ai pris mes formations, c'était avec des formateurs de la ville de Montréal. Mmh. Et cela n'a pas plu aux autres employés. pour X raisons, du fait qu'à l'époque, c'était ces mêmes employés-là qui étaient en charge des formations. Donc, il y avait des personnes qui échouaient, puis c'était vraiment louche, des personnes de couleur, surtout. Moi, vu que c'était la ville de Montréal qui m'a formé, j'ai passé les examens, il y a du monde qui l'ont pas plu. Mmh. Et c'est de là que je dirais que mes problèmes s'en sont venus, suite pendant 4 ans.
Vous étiez le seul, la seule personne noire à passer cette formation, donc à devenir opérateur.
Dans l'arrondissement de Rivière-de-Prix-Pétrotrom, oui. Effectivement. Mmh.
Donc c'est là que vos problèmes donc commencent, finalement vous commencez à travailler, puis il y a des actes qui commencent, c'est de la discrimination, c'est du harcèlement.
Ben, même pendant ma formation, ça a commencé parce que les mécontentements des autres collègues se faisaient savoir en disant que celle qui m'a formé n'est pas bonne, ils ne savent rien. Fait que déjà là, j'avais déjà une pression. Parce que si je me dis, s'ils sont capables de critiquer la formatrice qui m'a formé, eh bien, moi, je suis qui? Vous comprenez?
Je veux aller un peu à cette étape parce que vraiment, il y a des choses. Vous arrivez, quelqu'un vous menace, il vous traite de mon hostie du N-word. Il vous dit qu'il a des contacts avec les Hells Angels. Donc, quelque part, pour question de vous dire que ben, là, c'est comme quasiment une menace de mort. Ça ressemble à ça.
Si vous permettez, j'aimerais faire le déroulement de cet événement-là.
Oui, moi, c'est ce que... Oui, allez-y. Donc, vraiment, allez-y.
Qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que, bon, février 2019, j'ai réussi mes tests et tout. Donc, on rentre dans la période, à peu près dans les tournois, où ça bouge pas mal à l'aréna. Donc, j'ai beaucoup de pression par rapport aux spectateurs, l'atmosphère et tout et tout. Donc, je suis tout nouveau et je parle pas le jargon encore d'un opérateur. Et à l'époque, ce même monsieur-là qui est venu m'attaquer, je dirais que il avait, si vous me permettez, il avait un pattern. Son pattern, c'était lorsqu'il était à la maison intoxiqué, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'il aimait ça appeler au travail et critiquer l'ouvrage, critiquer les contremaîtres, critiquer peu importe qui est qui, le monde qui est là, son place. Donc en 2019, en février, donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je faisais la mécanique, l'entretien sur mon appareil, et lui, cette journée-là, il s'acharnait sur le téléphone. Il n'arrêtait pas d'appeler. Je pense que pendant deux longues heures, toutes les 5 minutes, chose que j'avais jamais vue. Et finalement, un de mes collègues me dit, écoute, faut répondre parce que le contremaître, il doit passer, il doit nous appeler. Fait que moi, je suis OK, d'accord. Fait qu'après ces 2 heures de temps-là, je me suis dit que c'est impossible que quelqu'un s'acharne comme ça dans son travail, surtout quand lorsqu'il est en congé à la maison. J'ai bien compris les choses. Donc, je finis par répondre une première fois, c'est lui. Et là, il me dit, dans le jargon d'opérateur et tout, il me parle, puis ça finit pour me dire que je veux pas te voir sur ma glace. T'as pas d'affaire d'aller sur ma glace. Ça, c'est le premier appel.
Sur sa glace.
Sur sa glace, évidemment. Donc, il m'a dit ça comme ça. Donc, j'ai dit, écoute, s'il y a quelque chose, avise le contremaître. Tu comprends? Déjà que je suivais déjà de l'intimidation, je me faisais tout petit. Malgré mon caractère et tout, c'est un environnement que j'avais tellement toxique que tu veux pas te faire remarquer. Tu comprenais? Donc, OK, j'ai dit, s'il y a quelque chose, avoir le contremaître, ça reste comme ça. Donc, la journée se déroule. Faut bien comprendre que nous faisons des 12 heures à l'aréna. Donc, j'étais là depuis midi. Jusqu'à minuit le soir. Donc, un peu plus tard, vers l'heure du souper, j'ai pris mon lunch à peu près vers 19h, 19h30. Et ensuite de ça, le téléphone sonne. C'est encore lui. Il pose des questions que je connais même pas. Je suis pas au courant de tous les systèmes du tour de rôle, de tout ça. Donc, je réponds genre, écoute, je l'ai dit la première fois, s'il y a quelque chose, on va contre-mettre. Mais la seule chose que j'ai pas aimé, c'est que lors de cet appel-là, il m'a dit, écoute, Maxime, toi, là, je te vois pas sur ma glace, y compris un autre. Mais lorsqu'il dit un autre, il parle d'un de mes confrères qui est métisse. Et là, lorsqu'il me parle, il nomme nous deux, j'ai compris où ce qu'il s'en allait. Fait qu'encore une fois, mécontentement, j'étais fâché. J'ai dit, écoute, je t'ai dit d'appeler le contremaître. J'ai raccroché la ligne au nez vraiment sec, ce coup-ci. Donc après ça, je me dirige vers le garage parce que j'avais une glace à peu près dans les environs de 20h, 20h20 environ, pour remettre la glace à 8h30. Donc je fais ma glace, tout se passe bien, je sors la Zamboni dans le garage et suite à ça, j'entends derrière moi la porte claquer. Et là, je me retourne et c'est lui qui est là. Je constate qu'il est là, mais lorsque j'ai constaté sa présence, les premières choses qui m'ont frappé réellement, et c'est là que j'ai compris que mon monde devait être en train de s'écrouler, parce que il est arrivé avec l'air vraiment en état d'ébriété, il est arrivé, il était intoxiqué, et avec une veste en cuir pour montrer qu'il était, je sais pas trop quoi, un motard ou je sais pas quelle idée qu'il avait dans ce moment-là, mais c'était intimidant. Même ses avis étaient intimidants. Et après ça, je constate aussi qu'il est venu avec un homme de bras. D'accord. Et c'est un homme d'un autre arrondissement. Donc, lorsque je le vois, faut comprendre que le garage est fermé par. Il y a deux sorties, les deux sorties sont fermées. Mm-hmm. Donc, je suis. Si je peux dire ça en bon québécois, je suis pogné là.
Ouais, mm-hmm.
Je suis pogné là. Je sais pas comment. À ce moment-là, je ne savais pas comment m'en sortir. Vous comprenez? Et tout ce que je sais, c'est qu'il y a deux caméras qui nous regardent. C'est tout ce que j'avais comme porte de sortie à ce moment-là. Donc, il s'approche vers moi en criant, je cite, « Tu sais pas qui je suis le king ici. C'est mon aréna. Tu m'as accroché la ligne au nez trois fois, mon esti de haine, mon esti de haine. » Et il s'avance vers moi en pointant du doigt et prend ses deux mains, me pousse sur le torse. Mais vraiment inattendu, okay. Je m'attendais pas à ça.
Donc il y a eu agression physique.
Ouais, exactement. Donc le coup sur le coup, ça comme j'ai le souffle coupé un peu là, comme parce que je m'attendais pas à ça. Je dis, oh, fait que j'ai fait le saut et là automatiquement, je sais pas si je me dis que c'est l'instinct de survie qui est embarqué. Automatiquement j'ai regardé son homme de bras. Ça a été la première chose que j'ai faite comme réflexe. J'ai regardé l'autre et il s'est avancé. Là j'ai dit waouh. Là, j'ai dit, waouh, là, je ne savais plus quoi trop faire parce qu'à ce moment-là, il fallait que je me gère moi aussi.
Tout à fait.
Il fallait que je me gère et je pense que c'était la partie la plus difficile de me gérer. Et ensuite de ça, il fallait que je gère la situation. Donc, je me demandais comment je pouvais faire pour sortir
du garage. Pour sortir de là.
Et.
Ce sont des souvenirs un peu douloureux. On ne va pas insister là-dessus.
Mais ça va.
Ok.
Suite à ça, il m'a permis de sortir du garage en disant, il est où un tel? J'ai dit, ah, tu veux parler avec l'autre collègue? Ok, pas de problème, on sort du garage. Donc, déjà là, je pouvais un petit peu respirer. Comprenez? Donc, on est sorti par la porte de garage, la sortie 2, glace 2, qui amène à la glace 2. Et le soir, à la glace 2, c'est vraiment des activités patinage artistique. Ok, c'est des enfants qui sont là.
Tout à fait.
En bas âge. C'est pas, des mineurs, excusez-moi. Des mineurs. Donc, lorsque je suis sorti du garage, vu son état, puis j'ai oublié un petit détail pour faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'il me criait les noms, il a mis sa main dans sa jacket en me faisant penser qu'il y avait un truc, tu comprends? Déjà là, je savais que ma vie était en danger, mais lorsque j'ai sorti sur la glace 2, je me suis dit, écoute, je laisserai pas ce type-là atteindre les enfants. Moi, ma priorité, c'était les enfants. Parce que je savais pas à quel point qu'elle allait disjoncter. Donc, je me suis mis d'une
C'est-à-dire
façon...
C'est-à-dire qu'au-delà de votre propre protection, vous pensez à celle des enfants qui sont dans la
Effectivement. Parce que je sais pas sous quel délire il est. Et que c'est moi qui est en train de gérer cette situation-là présentement. Je suis seul avec lui. Et son homme de bras. Donc, lorsque je suis sorti du garage par la porte 2 de la zone Bonnie, je me suis mis d'une façon côte à côte avec lui pour protéger ses enfants, pour protéger s'il fait quelque chose ou quoi que ce soit, pour qu'il n'y ait aucun blessé des enfants. Je sais que ce n'est pas ma fonction, mais c'est les seuls repères que j'avais. Vous comprenez? Donc, on s'est dirigé vers. Vers l'entrée de l'aréna, mais on a passé par les portes, si je peux dire ça comme expression, ça s'appelle le pro shop, où ce qu'on aiguise les patins et tout. Donc mes collègues étaient là. Et lorsque j'ouvre les portes, mes collègues, ils ont juste vu lui qui est là, mais juste en le regardant, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, suite à cela, il a sauté sur mon collègue. Faut comprendre que mon collègue, c'est un grand balèze. Et écoutez, il lui a sauté dessus. Et puis, bon, mon collègue a essayé de le maîtriser, mais d'une façon pas trop, parce que, tu sais, on est au travail et tout, on a peur. Parce que quand tu vois un affaire comme ça, tu penses à ton travail, tu te dis, écoute, si je le frappe, je suis foutu.
Je suis foutu, je perds mon emploi.
Fait que c'est mieux que tu prends le coup de poing, que tu tombes à terre, ou tu subis la violence parce que tu as peur de perdre ton emploi. Ça aussi, c'est une pression. On avait toute cette pression-là. Lorsqu'il a sauté sur mon collègue, et je dis une chance qu'il a sauté sur lui parce que mon collègue, c'est un grand balèze. Je ne suis pas si grand que ça. Mais mon collègue a pu résister. Et ils se sont chamaillés et tout, jusqu'à temps qu'il était tellement intoxiqué que je crois que même Mike Tyson n'a pu le frapper, ça aurait rien fait. À ce point-là, il avait une force incroyable. Il était quasiment possédé là. Et bon, suite à ça, mon collègue a essayé de le maîtriser le mieux qu'il pouvait. On a fait les cols blancs qui étaient sur place et tout, appelé la police. Le contremaître n'était pas trop loin, une chance. Il a pu s'en venir. Suite à ça, mon collègue, on a pu s'éloigner un peu de la scène. Fait qu'on a monté les marches de l'entrée principale. Et c'est là qu'il a commencé avec ses menaces. Je vais vous faire casser les deux jambes. Je connais les motards, blablabla. Je vais vous faire casser les deux jambes.
Monsieur Maxime Charles, ce rire que vous entendez, que vous voyez, c'est vraiment pour, je dirais, détendre l'atmosphère, parce que votre témoignage est très, 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 très poignant, le dire même. C'est voilà, tout ce que vous dites, c'est très poignant. Parce qu'on ne peut pas tout raconter, faute de temps. Mais il y a tout ça qui se passe. J'arrive au niveau des plaintes. Vous faites une première plainte.
Oui.
Votre plainte est, le dossier est refermé parce qu'on estime que vous ne manifestez pas assez de peur parce que vous souriez.
Oui,
c'est ça qu'on m'a dit.
Parce que lorsqu'ils ont regardé les caméras, lorsqu'ils nous menaçaient, moi et mon collègue, le réflexe qu'on a eu, parce que on te menace, t'as peur, tout ça se passe vite, fait que le réflexe qu'on a fait, on l'a comme...
Oui, comme, mais voilà, tout à fait, visage, sourire, une façon dire, de dire, mais
tu comprends, mais c'est automatique d'autodéfense.
Oui, tout à fait.
Tu comprends? Même si j'ai peur, je peux sourire pareil. Vous comprenez? Fait que c'est de cela qu'ils ont dit, on regarde dans les caméras, ça a l'air que t'as pas eu peur, puis tout et tout. Ils ont abandonné les charges.
Donc, vous refaites ça en 2023. Je signale que tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt en congé maladie.
Effectivement.
Depuis un moment.
Exactement.
Je me tourne vers Fonimi qui vous accompagne un peu dans ce dossier-là. Fonimi, le cas de Maxime Charles, ce sont des cas, j'ai envie de dire, que vous traitez quasi quotidiennement. Dans son cas précis, qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous voyez ça? Comment vous analysez ça?
Ben, premièrement, merci de m'avoir invité ici. Vous savez, depuis juin 2021, quand l'école bleue, noire et arabe de Montréal-Nord nous ont appelés pour parler de leur situation, et surtout avec toute la reconnaissance du racisme à Montréal-Nord, on a aussi appris beaucoup d'histoires vraiment choquantes. Par exemple, à Montréal-Nord, il y avait un employé noir, une code bleue noire, qui s'est fait pointer une carabine par un collègue blanc en milieu de travail, menace. Et là, il n'y a aucune sanction, aucune accusation criminelle. Donc, quand on a entendu ça, on dit bon, il y a un pattern, il y a une sorte de tolérance, une sorte de collusion parmi les autorités, que ce soit au niveau de l'administration de l'arrondissement ou avec même le service police, de ne pas agir, principalement de protéger les gens. Deuxièmement, de leur assurer, entre autres, un milieu de travail digne et respectueux. Ce qui est grave dans son cas aussi, c'est que ça a l'air d'un incident ou d'un acte de crime haineux, qu'on appelle en anglais « hate crime ». La manière dont la police en 2019 a traité ce cas-ci démontre qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire quand il est question de crimes haineux ou d'incidents haineux en milieu de travail. Et là-dessus, on va, disons, cette semaine, on va peut-être parler avec la haute direction du SPVM pour que le service police joue un rôle beaucoup plus proactif et beaucoup plus ferme quand on intervient pour protéger les cols bleus racisés, noirs et arabes. Parce que nous, on reçoit beaucoup de plaintes. Je crois que de plus en plus, les gens ont moins peur. Les gens commencent à sortir de l'ombre pour réclamer justice et réparation. Et je crois que M. Charles aussi. On a commencé à travailler ensemble depuis début mai, parce que vous êtes venu nous voir. Et c'est là qu'on a essayé de mettre le tout ensemble et pour démontrer que tout au long, le racisme systémique se manifeste par les failles au sein de tous les systèmes disponibles. Les failles au niveau de la protection et au niveau aussi au niveau du respect des conditions fondamentales de travail qui sont entre autres garanties dans les conventions collectives et dans les politiques de la ville, mais qui ne sont pas appliquées.
Appliquées. Mais vous avez quand même applaudi il y a quelques jours le fait que maintenant la ville, par exemple, avait décidé de centraliser en un seul point toutes les plaintes. Est-ce que vous estimez que c'est une avancée?
Ben, la ville a annoncé il y a quelques jours trois mesures très concrètes. Mm-hmm. D'abord, un guichet unique.
Oui.
Parce que maintenant, les gens, au niveau local, ne savent pas où aller, ainsi de suite. C'est une labyrinthe. Donc maintenant, guichet unique, et ce sera la commission de la fonction publique de Montréal qui va se recevoir traiter les plaintes. Okay. Avant, c'était un peu partout.
Un peu partout.
Respect la personne, contrôleur général, la ville de Montréal, qui a déracisé d'un cas qui est très connu. Donc maintenant, et troisièmement, la ville va aussi insister entre autres sur la réforme de la politique respect de la personne,
okay,
dans laquelle on va mettre l'accent sur la tolérance zéro des actes de racisme et de violence. Parce que maintenant, ce concept n'existe pas au niveau de l'imputabilité des gestionnaires.
Mm-hmm.
Et il faut utilement, comme dans le cas de M. Charles, que le directeur de l'arrondissement s'explique et explique aux élus pourquoi cette situation on a pu laisser perdurer cette situation et pourquoi les politiques n'ont pas été appliqués, ne serait-ce que pour le protéger.
Les directeurs d'arrondissement, très souvent, un des arguments qu'ils sortent, c'est qu'ils ne sont pas au courant. C'est-à-dire que l'information ne vient pas à eux, donc ils ne sont pas au courant. Un cas comme celui de M. Maxime Charles, j'ose croire que je ne sais pas si c'est un directeur ou une directrice qui est à Rivière-des-Prairies, j'ose croire que voilà un cas, il comprendra que dans son arrondissement, il y a un problème.
Vous savez, on peut être aveugle.
Mais volontairement, oui.
C'est ça, exactement, oui. Ça, c'est un problème. L'autre chose, dans le cas, par exemple, de Montréal-Nord, on sait qu'il y a une sorte de tolérance active de l'intolérance en milieu de travail. Par exemple, quand l'école bleue, noire et arabe ont dénoncé le racisme Montréal-Nord, ils ont reçu une mise en demeure par huissier payé par les frais, par le budget de la ville. Donc, la direction locale ne veut pas plaider ignorance. Je crois qu'éventuellement, c'est ça dont on parle, comme Mme Olivier annonçait il y a quelques jours, l'imputabilité, la tolérance zéro. Mm-hmm. Pour nous, on demande que ça soit appliqué immédiatement. On ne peut pas attendre.
Mm-hmm.
Il faut que les gestionnaires, les cadres, les superviseurs, les contremaîtres soient responsables et soient tenus imputables. Sinon, ils pourraient perdre leur emploi, ils peuvent être suspendus ou ils peuvent être rétrogradés, mais absolument, le contrôle de la qualité de vie des gens, la protection des travailleurs commence par là.
Tous ces cas-là, Fonimi, m'amène à... Je vais oser utiliser un terme peut-être pas adéquat, mais finalement, c'est ça qui me vient un peu. Il y a une forme d'omerta dans les arrondissements face à ces cas de discrimination, de harcèlement. Je sais que le mot que j'utilise, je l'utilise à bon escient, mais à force d'entendre ce genre de choses, et vous le dites aujourd'hui, grâce au travail que vous faites, les gens commencent à parler, des gens comme M. Maxime Charles viennent vers vous, mais jusqu'ici, il y avait comme quoi une forme d'omerta des institutions?
Oui, vous pouvez dire ça, moi je dirais une forme de collusion, une forme de tolérance passive et même active de l'intolérance. Et dans tout ça, on se pose des questions. Les élus, où sont-ils? Les administrateurs, les directeurs des arrondissements, où sont-ils? La police, où est-elle? Et finalement, les syndicats, où est-il? On ne peut pas laisser nos... Vous savez, les cols bleus sont vraiment essentiels pour notre qualité de vie quotidienne dans cette ville. On n'y pense pas, mais vous voyez tout ça chaque jour quand vous promenez dans votre quartier. Mais comment ça se fait que ce genre de situation existe et perdure au fil des ans? Et comment ça se fait qu'on a dû attendre tellement longtemps? Je crois qu'avec le leadership de Mme Olivier, avec l'administration actuelle, il y a une véritable volonté de faire quelque chose. Donc nous, on espère pouvoir contribuer avec des idées concrètes. L'une des choses qu'on veut faire changer immédiatement, c'est qu'on arrête de traiter les cas de harcèlement racial comme des cas de harcèlement psychologique. Parce que le risque de traiter un cas de racisme comme du pur harcèlement psychologique, c'est qu'on déracise le problème.
Tout exactement.
Et qu'on évacue les dimensions systémiques qu'il faut apporter dans les conditions de travail, dans les structures des relations de travail. Harcèlement psychologique, c'est en vertu de la loi sur les normes de travail, alors que harcèlement racial, c'est en vertu de la charte des droits et libertés.
On va aller à la pause et puis au retour, justement, je veux que vous reveniez un peu sur cette notion harcèlement psychologique, harcèlement racial. Je suis en compagnie de M. Maxime Charles, qui est un employé de la ville de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et M. Foniemi, directeur général du CRAC. On se séparait, Foniemi, vous étiez en train de nous expliquer quelque chose, parce que face à ces situations-là, aujourd'hui, vous travaillez avec, on va dire quoi, grosso modo, une trentaine, hein, un peu plus de travailleuses et travailleurs municipaux, et ça dans plusieurs arrondissements de la ville. Et vous avez mis, vous, en avant 5 propositions précises où vous pensez que la mise en application de ces 5 propositions tout de suite pourrait changer beaucoup de choses. Et parmi elles, donc, il y a ce que vous nous expliquez, la différence entre harcèlement racial et harcèlement psychologique. Est-ce qu'on peut essayer de survoler un peu les 5 propositions que vous mettez en avant aujourd'hui pour changer les choses?
Nous avons soumis à la ville 5 propositions sur lesquelles la ville peut agir pratiquement immédiatement. Mmh. Entre autres, traiter les plaintes de racisme comme des plaintes au moins de harcèlement racial et non harcèlement psychologique, pour faire ressortir la dimension raciale. Et souvent haineuse. Deuxièmement, il faut s'assurer que les plaintes qui sont actuellement dans la machine soient bien traitées avec équité, avec transparence, par des personnes compétentes. L'une des choses que j'aimerais glisser aussi, c'est qu'il faut absolument que les personnes qui travaillent dans le traitement des plaintes dans la division, que ce soit respect de la personne ou des enquêteurs externes que la ville embauche, il faut que ce soit des personnes aussi racisées qui
soit dans le
tout à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de personnes couleurs qui travaillent comme enquêteurs et qui avocats. La troisième chose qu'on demande aussi, c'est qu'il faut absolument que le SPVM revoie son rôle pour intervenir efficacement et rapidement lorsqu'il y a de violence en milieu de travail. Quand je parle de violence, on parle de violence tant physique que psychologique, parce que c'est très important cette dimension. Comme dans le cas de la violence sexuelle, on est à l'heure de Me Too, donc il faut absolument aborder la question de la violence psychologique des personnes qui sont harcelées. L'une des choses aussi que nous avons mis de l'avant, c'est de restructurer la commission de la fonction publique de Montréal à l'heure actuelle, qui va recevoir le mandat de traiter les plaintes de discrimination et de racisme. Que d'abord, les commissaires, les membres de la commission ne reflètent pas la diversité de notre ville. Deuxièmement, s'assurer que cette commission ait les ressources humaines et budgétaires nécessaires pour faire le travail correctement. On ne peut pas attendre 2, 3 mois, 5 mois, parfois 1 an ou 2 pour avoir une réponse. Dernièrement, dans le formulaire de plainte de la division respect de la personne, maintenant, dans ce formulaire-là, il y a des questions qu'on trouve un peu, qui portent à confusion et qui peuvent être un peu tendancieuses. Par exemple, il y a une question, avez-vous porté plainte au service des affaires internes du SPVM? Bien sûr, la plupart des gens disent non, parce que la division des affaires internes, c'est pour plein de fautes professionnelles. Donc ça, c'est une erreur. L'autre chose aussi, avez-vous porté plainte à la Commission des droits de la personne? Depuis que la Cour suprême s'est prononcée là-dessus en 2003, au Québec, les employeurs syndiqués ne peuvent plus aller à la Commission des droits de la personne, mais il faut qu'ils passent obligatoirement par l'arbitrage de grief. Donc, vous voyez, ces questions-là...
C'est un vrai labyrinthe, c'est compliqué,
surpris. La définition de racisme systémique, de discrimination systémique dans le formulaire aussi laisse un peu désirer. Donc, ce sont des choses qu'on demande à la ville de corriger le plus rapidement possible, parce que chaque jour, je crois, quelque part, au sein de la ville de Montréal,
il y a quelqu'un qui se fait...
noir, arabe, d'origine ethnique minoritaire, qui se fait...
Tous les jours.
Maltraité, qui s'avait peut-être harcelé, discriminé, donc il faut agir rapidement.
Sauf si c'est un secret, je me retourne vers M. Maxime Charles. Lorsque vous allez avec le CRA, vous recevez une lettre finalement, une réponse concernant votre deuxième plainte, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que... on peut dévoiler ce qu'on vous dit dans cette réponse-là par rapport à votre deuxième plainte ou pas, ou c'est quelque chose qui reste secret?
L'appel téléphonique? Ok. Oui. Ben, dans le fond, M. Foniemi avait averti qu'il allait envoyer une lettre. D'accord. Puis moi, ça faisait déjà 2 mois que je n'avais pas eu aucune réponse. Donc, un jour, je me lève le matin, le téléphone sonne. C'est un sergent qui me répond. Je dis allô, oui. Et puis, il me dit, écoute, M. Charles, c'était quand même assez rapide comme l'appel, parce qu'il parlait vite. Et je comprenais pourquoi il parlait vite, parce qu'il joue avec les mots. Donc, ce qu'il me disait, est-ce que tu as des preuves de ce qui est arrivé en 2023, c'est pas du racisme. Là, j'ai expliqué, je disais, ouais, c'est OK. Moi, je laisse parler, vous comprenez? Je laisse parler, je reste calme. J'essaie d'écouter qu'est-ce qu'il me dit. Et il me dit, parce que là, c'est pas notre faute à nous, c'est la faute de l'employeur. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Je dis, ah, OK, d'accord. Puis là, il commence à me dire que j'avais des photos. J'ai des photos et tout qui prouvent que j'ai eu des abus. Et dans une des photos, c'était mon nom barré avec des propos haineux à côté.
Et, tu votes casier ou quelque chose comme ça, c'est ça?
Sur la liste des employés.
OK.
Donc, c'est sur le tableau de bord, donc c'est à la vue de tout le monde.
Oui.
Donc, c'était très humiliant et c'était quelque chose aussi qui circulait dans les téléphones cellulaires au travail. Donc, j'étais déjà humilié. Fait que là, le policier, j'explique ça aussi un peu, puis il me dit, oh ben là, ça c'est rien, ça, un blanc peut me dire ça, puis c'est pas du racisme, puis ici, ça. Fait que là, j'étais comme, monsieur, bonne journée. Vous comprenez, j'ai fini, dès qu'il m'a dit ça, j'ai dit, OK, bonne journée. J'ai compris que dans ce système, on essaie de nous isoler, on essaie de nous manipuler, nous décourager, surtout nous décourager, et nous faire comprendre à leur façon et à leurs mots que nous n'avons pas d'alliés. Vous comprenez? Qu'on n'a pas d'alliés. Donc, je crois que c'est un traitement qui nous réserve d'avance lorsqu'on avance dans nos dossiers, en nous mettant les bâtons dans les roues de ce genre.
Après vous avoir entendu, M. Maxime Charles, j'ai envie de dire, je garde espoir, surtout que je vous avez à côté de vous Monsieur Foniemi et son organisme, parce que aujourd'hui les choses commencent à être réglées d'une certaine façon. Je pense notamment à cet employé de Montréal du parc Jean Drapeau pour lequel finalement vous avez obtenu justice. Ça a été long quand même. 2 ans, je vais finir à, non,
6 ans,
OK. Mais je vais finir avec cette question. Est-ce qu'il y a aussi possibilité, ou dans vos demandes, est-ce que vous avez la possibilité de mettre un peu plus de pression pour que le délai de traitement de ces plaintes-là soit plus court? Parce que quand on voit l'état, ce que ça a comme conséquence psychologique, par exemple, sur M. Charles, est-ce qu'il y a aussi là-dessus, il y a du gros travail à faire?
Ben exactement, c'est ça que nous voulons faire, disons, nous voulons contribuer et puis proposer des choses à la ville de Montréal, parce que la volonté, elle est là. C'est une question de trouver le savoir-faire. Mais il faut souligner que, vous savez, à la Commission des droits de la personne, vous déposez une plainte, ça peut vous prendre 4 ans avant une décision. On ne veut pas que la ville suive ce mauvais exemple. Donc, il y a des façons de faire. Et l'une des choses aussi, je crois, très important, c'est comment les syndicats doivent assumer une meilleure responsabilité dans le dépôt de griefs, dans le traitement des griefs, et surtout au niveau de la prévention. Parce que le syndicat, souvent, c'est un partenaire, un acteur incontournable dans la protection des travailleurs et travailleuses en milieu de travail. Et quand ce genre de situation, qu'on a laissé perdurer pendant des années, comme à Montréal-Nord, par exemple, il faut se poser des questions. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé avec le syndicat canadien fonction publique, le local 301, avec... Vous avez vu un peu la controverse. Donc, il faut travailler aussi avec les syndicats à partir de là-bas jusqu'à la haute direction pour que, au-delà des discours, au-delà des grands buzzwords, qu'il y ait vraiment des choses concrètes mises en place pour la protection des droits des employés.
Monsieur Maxime Charles, merci beaucoup. Merci d'avoir pris quelques temps pour venir nous parler un peu de ce cas-là. Merci à Foniemi.
Merci à vous.
Nous, on va... vous êtes venu là, vous avez pris la peine de venir nous en parler ici. Puis on va suivre un peu comment les choses se passent. Et la seule chose concrète qu'on puisse vous dire, c'est juste vous souhaiter, et je dis vraiment au nom de toute l'équipe, c'est vous souhaiter vraiment beaucoup de courage. Et espérer que les choses vont mieux aller pour vous.
Merci. Ouais.
Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous.
Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekwala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.